6h03, nous sommes déjà la semaine qui passe vite, mercredi 17 avril, bonne journée, bienvenue à l'antenne du 88.5 FM, belle journée en vue, ciel dégagé, un petit peu frais ce matin autour de zéro, et on prévoit du soleil avec un maximum de 11. Il faut en profiter parce que dès demain, on entre dans une période de quelques jours de temps gris, couvert et de pluie. Pour demain jeudi, c'est de la pluie intermittente, 13 degrés. Vendredi, de la pluie, 18 degrés. Samedi, des averses, 11. Et dimanche de Pâques, on prévoit encore là de la pluie intermittente, 16 degrés. Donc vraiment aujourd'hui, c'est la dernière véritable belle journée avant ces 4 jours de mauvais temps. On revient bien sûr sur la situation à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Philippe Bonneville est sur place. Pour être très précis, il est tout près du parvis de la cathédrale, sur le pont qui enjambe la Seine, et c'est là que sont regroupés l'ensemble des médias du monde. Première question, Philippe, ce matin, les pompiers, les experts là, qui tentent toujours de sécuriser une partie de la cathédrale, là, il y a encore des éléments de structure qui menacent de s'effondrer.
Oui, il y a environ 80 pompiers qui sont ici, Paul, sur place midi, et on les voit qui continuent d'inspecter la structure à l'aide d'immenses grues, de nacelles également, parce qu'il y a ce pignon en forme de triangle qui est situé entre les deux tours avant la cathédrale, qui, lui, a été grandement fragilisé par les flammes, par l'eau également qu'on a projetée sur la structure, et ce pignon-là, il pourrait s'effondrer. Il y a une autre section de la cathédrale qu'on ne voit pas de là où je suis présentement, mais qui pourrait aussi s'effondrer sur une rue de l'autre côté du bâtiment. Il y a donc 5 immeubles dans ce secteur-là qui ont dû être évacués. Et pendant ce temps-là, eh bien, on est en mode sécurisation, évidemment. Ici, de leur côté, les 50 enquêteurs, eux, sont mobilisés pour trouver l'origine, la cause de l'incendie. Ils ne peuvent pas entrer, cependant, dans la cathédrale, ces enquêteurs-là, pour l'instant. Ne peuvent pas accéder aux débris calcinés, ne peuvent pas effectuer le prélèvement pour l'instant parce que c'est vraiment trop risqué de pénétrer à l'intérieur en raison de ces risques d'effondrement. Et pendant ce temps-là, il y a aussi... C'est l'heure du midi ici du côté de Paris et comme hier, il y a énormément de Parisiens, Paul, de touristes aussi qui sont ici pour voir en personne les dommages qui ont été causés à la cathédrale.
Je sais pas comment l'enquête va évoluer, mais je voyais hier, entre autres, qu'il y a certains témoins qui disaient que les flammes avaient pris naissance à la base de la flèche en question dans la structure. Mais ça, évidemment, il n'y a rien de confirmé. Maintenant, le président Macron a promis hier que l'œuvre de reconstruction serait terminée d'ici 5 ans, ce qui laisse plusieurs experts pas mal sceptiques.
Certains pensent que c'est carrément irréaliste de pouvoir reconstruire tout ce qui a été détruit en à peine 5 ans, parce que la cathédrale, elle a carrément été éventrée, surtout au niveau du toit, au niveau de la charpente. C'est encore beaucoup trop difficile pour l'instant de déterminer quels travaux devront être effectués selon les experts, de quelle manière on va les faire, combien ça va coûter tout ça, et surtout combien de temps ça va prendre. Et surtout, est-ce qu'on doit tout reconstruire, Paul, comme ça avait été fait à l'époque avec une charpente en bois faite de chaîne? Est-ce qu'on devrait plutôt utiliser des matériaux plus modernes, plus résistants, plus légers, avec des technologies du 21e siècle? Question que ce soit plus rapide. C'est ce que plusieurs proposent. Voici d'ailleurs l'avis de ce Parisien que j'ai rencontré un peu plus tôt aujourd'hui ici. Quelqu'un qui s'y connaît quand même passablement bien en architecture.
Je pense qu'il faut changer le mode de construction, hein, trouver des matériaux plus modernes. Il y a des matériaux composites maintenant, il y a des choses qui permettraient de retrouver la perspective, la même beauté de ce monument sur Paris.
Donc c'est pas de reconstruire de la même façon.
Non, je pense qu'il faut pas reconstruire de la même façon. De toute façon, Notre-Dame n'a jamais été construite pareil au cours des siècles. Il y a toujours eu des changements de technologie et beaucoup de réfections de cathédrales qui ont été faites suite aux guerres de 14-18, de 39-45, ont été faites avec des techniques du 20e siècle en fait. Et là, on est au 21e siècle. Je pense qu'on peut tout à fait construire des choses qui soient aussi beaucoup plus légères. Le toit, cette charpente, était extrêmement lourde. Bien sûr, la structure maintenant est fragile, la structure du bâtiment, donc il vaut mieux la recouvrir avec quelque chose de plus léger, mais de durable, et qui pourrait retrouver la forme qu'elle avait auparavant.
Et Paul, évidemment, peu importe la durée des travaux, que ça prenne 5 ans, 12 ans, 15 ans, ça va coûter extrêmement cher. Et les dons des citoyens, des entreprises ici continuent d'affluer. Il y a un élan de générosité qui est colossal. On a dépassé aujourd'hui le cap du 1 milliard d'euros de dons au cours des dernières heures pour financer donc la reconstruction. En argent canadien, c'est presque 1,5 milliard de dollars. C'est énorme en moins de 2 jours.
Merci beaucoup, Philippe Bonneville, en direct de Paris. On peut ajouter quelques éléments. La facture, bien sûr, sera très élevée. Il y a des gens qui se demandaient, est-ce que Notre-Dame de Paris s'était assurée? Est-ce que c'est d'abord, est-ce qu'on pouvait assurer une telle église? La réponse, c'est non, parce que toutes les églises, depuis déjà fort longtemps, qui ont cette valeur historique, sont la propriété et la responsabilité de l'État. Donc, c'est l'État qui va payer. Et quand vous regardez comment on a pu amasser autant d'argent si rapidement, ben, ce sont les grandes fortunes françaises qui ont contribué. On peut penser à L'Oréal, là, la famille Bettencourt, Arnaud également. Alors bref, c'est comme ça qu'à coup de 100, 200 millions, on est allé chercher beaucoup d'argent. Je fais une parenthèse, j'ai pas pu le valider. Je vous lance ça, il y a peut-être des historiens qui nous écoutent ce matin quand on parle de reconstruction. Il y a un auditeur qui m'a donc écrit pour me dire qu'il y a bien longtemps, il y avait un incendie qui avait touché le marché Bon Secours. Et l'incendie avait détruit le dôme et une partie de la toiture. Et là, on remonte à plusieurs décennies dans le temps. Et à l'époque, on avait décidé de reconstruire, évidemment, mais la décision avait été prise de maintenir donc le cachet historique, mais de changer les matériaux. Ça a été remplacé par une ossature en acier. Alors, je pense que c'est vrai, là. C'est donc dire que c'est pas nécessaire de tout refaire avec les matériaux. Est-ce qu'on va refaire la forêt, donc les charpentes à l'intérieur de Notre-Dame? Il y a bien des gens qui pensent que ce serait inutile et que comme Notre-Dame a évolué au cours de ses 800 ans, bien, ce serait normal, comme disait ce spécialiste tantôt qui parlait, de peut-être se tourner vers des matériaux un peu plus modernes. Maintenant, ici, parlons du dossier de la laïcité. D'abord, pour vous dire qu'il n'y aura pas de statut pour Montréal, puis là-dessus, tous les partis politiques sont d'accord. Et évidemment, on peut comprendre la prise de position de Mme Plante, M. Pérez, en disant ça nous touche particulièrement à Montréal et c'est pas dans notre façon de vivre et on pense que c'est rien pour améliorer les relations entre citoyens. C'est vrai que Montréal a un statut, c'est vrai que Québec a un statut, c'est vrai qu'il y a des lois qui peuvent s'adapter à la réalité montréalaise. Puis là, on peut penser tout de suite, le virage à droite est interdit à Montréal, puis est permis ailleurs sous certaines conditions. Mais là, vous ne pensez sûrement pas que le gouvernement du Québec va dire une loi de la laïcité ne s'appliquera pas sur le territoire montréalais. Ça n'a aucun sens. C'est comme si on disait, écoutez, la loi 101, c'est très bien, mais comme il y a des réticences à Montréal, là, on ne l'appliquera pas non plus aux écoles montréalaises. Voyons là. Alors, je ne sais pas ce qu'on visait par ça, mais la fin de non-recevoir est arrivée rapidement. Ensuite, ben vous avez encore les dérapages. Puis là, je me tiens loin, je dois dire, des réseaux sociaux parce que autant chez les pros que chez les anti, il peut y avoir des propos réfléchis, mais il y a souvent bien des niaiseries et des propos absolument délirants. Puis le dernier en lice, tu sais, là, ça nous présente ça comme étant de l'humour, là, puis on sait que ça ne l'est pas, là, puis c'est pas le cas pantoute. Alors, c'est l'ex-candidate Ève Torres, candidate de Québec solidaire, candidate voilée, qui fait maintenant dans les médias et qui prétend avoir voulu faire une farce sur Facebook. Et là, on la cite. Évidemment, elle s'est rétractée, le message a disparu. Manon Massé lui a dit d'enlever ça. « Quand tu interdis aux autres de porter leurs signes religieux, tu fâches notre ami, entre guillemets, imaginaire. Puis voilà le résultat. » Et elle enchaîne en disant que si j'étais François Legault, je ferais dormir les pompiers à la basilique de la rue Notre-Dame, a-t-elle ajouté. Et elle dit que c'était une blague. Elle-même, originaire de France, elle a passé plusieurs années à Paris d'éprouver une affection particulière pour les églises. M'excuse, là, mais quand t'es un ancien candidat, une ancienne candidate, d'abord, je suis pas certain si c'était de l'humour, là. Si c'est de l'humour, c'est pas drôle. Dans le contexte, tu peux pas commencer à délirer comme ça. Et il y en a malheureusement de plus en plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un débat tellement émotif qui polarise tellement qu'on a nos petites dérapes pratiquement au quotidien concernant ça. Alors, est-ce qu'il y aura des modifications à la loi? Le ministre a dit pas sur les principes, bien sûr, sur certaines modalités. Là, je pense à ce que Boucard Diouf nous a dit quand il est venu cette semaine, que, par exemple, deux choses. On pourrait permettre si on tient compte du droit acquis, aux professeurs qui portent déjà le voile Donc, de garantir que s'ils demeurent dans le réseau public d'éducation, s'ils changent d'école, ils conservent ce droit, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et pour les étudiants et étudiantes qui sont déjà en enseignement, qui ont déjà amorcé leurs études, est-ce qu'on pourrait leur reconnaître ce droit-là aussi? Alors, est-ce qu'on va aller dans cette direction? On sait qu'on veut l'adopter, la fameuse loi, assez rapidement, d'ici la fin des travaux parlementaires en juin. 6h13, on va aller retrouver Marc. Il faut dire à nos auditeurs ce matin, coïncidence, on est tout près du début du congé de Pâques et le prix de l'essence, c'est pas loin de 1,40 $ le litre à Montréal. Ça tombe comme ça.